الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الشيخ خيرسوخ dans un hadith rapporté par At-Tabarani, hadith Hassan, le prophète alayhi salatu wa salam dit: Man aza al-muslimina fi turuqihim wajabat alayhi la'natuhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa salam dit: Celui qui nuit aux musulmans, qui importune les musulmans dans leur chemin, donc dans leur rue, la malédiction, leur malédiction, c'est-à-dire leur malédiction lui est applicable. C'est-à-dire qu'il mérite la malédiction des musulmans. Et quand on regarde la situation actuelle, on regarde un grand laisser-aller de la part des musulmans quant à leur comportement dans la rue. Parmi les erreurs qu'on constate actuellement, donc, lorsqu'on regarde la situation des musulmans en rue, on voit par exemple, on constate des attroupements de jeunes dans beaucoup de coins de rue qui embêtent leur monde, soit par le bruit qu'ils causent jusqu'à des heures tardives, ou même toute la journée jusqu'à des heures tardives. Également, ils importunent les passants, jouent au foot n'importe où, en plein milieu de la rue, touchant les voitures, touchant les vitres. D'autres sont en train de fumer leurs cigarettes ou leurs joints dans les coins de rue, donnant un mauvais exemple aux gens et surtout aux petits. D'autres encore bien sûr sont dans les rues pour voler, pour agresser les gens, et j'en passe. Également on constate le phénomène des cortèges de mariage, avec ce qui s'ensuit comme voitures, les colonnes de voitures avec les klaxons jusqu'à des heures tardives, qui s'arrête en plein milieu de la route, en double file et parfois en plein milieu de la route, donc causant des grands dérangements à tous les autres véhicules. Également, certains même vont jusqu'à aujourd'hui louer des carrosses, exposant ainsi leurs femmes à tous les gens, à ce que tout le monde peut donc bien contempler leurs femmes. Et ces gens, bien sûr, le prophète alayhi salatu wa salam dit: Ad-dayyuth la yadkhulu al-jannah. Donc celui qui a perdu toute jalousie ne rentre pas au paradis. Et certains donc vont jusqu'à louer des carrosses pour encore mieux pouvoir montrer la femme avec qui il se marie à tout le monde. Bien sûr également le phénomène donc de la musique, certains vont mettre le volume à fond dans leur voiture et à 1h, minuit, 1h du matin, ils s'amusent à mettre la musique dans leur voiture pour bien réveiller tout le monde. Le lendemain, il y a des gens qui doivent aller travailler donc assez tôt, il y a des gens qui ont des bébés, etc., donc pour embêter leur monde. D'autres encore jettent leurs ordures n'importe où, n'importe comment, que ce soit les mégots de cigarettes, ou bien ils sont en train de manger quelque chose, boire quelque chose en rue, et ils jettent donc les emballages ou les canettes, les boîtes n'importe où, à tout bout de champ. D'autres encore qui se réservent une place de parking de manière définitive. À chaque fois qu'il sort de chez lui, il installe une caisse ou une chaise ou une planche. Donc il a devant sa maison, il s'est réservé, ou dans la rue, sur le trottoir, il se réserve donc un endroit rien que pour lui. D'autres encore parmi nos frères qui, lorsqu'il sort de la mosquée, s'attardent pendant une demi-heure ou 40 minutes ou moins ou plus donc devant la mosquée. Également cela, ce sont des choses à éviter. On peut encore également citer d'autres phénomènes. Mais donc on remarque que cela est dû soit à l'ignorance des gens et des musulmans par rapport à ces bienséances, ignorées et négligées, ou bien sûr certains connaissent mais négligent et ont à laisser aller. Et certains également croient que cela n'est pas important, que ce sont des choses insignifiantes, tant que ça ne fait pas partie, ça n'a rien à voir avec l'islam, ces choses-là, l'islam n'a pas de jugement par rapport à ces choses-là, sont des choses donc insignifiantes. Et on va voir que c'est tout le contraire et que cette conception est tout à fait erronée. On va citer certains hadiths, inshallah ta'ala, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde justement au fait de rester assis et de se positionner, de rester dans les chemins, sur la voie publique. Et dans ce hadith, le premier hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam dit Iyyakum wal julus fi at-turuqat. Donc il dit prenez garde, ne vous asseyez pas sur la voie publique, sur les chemins, sur les routes. Et les compagnons radiallahu anhum de dire فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّنْ. Ils ont dit radiallahu anhum, ô messager d'Allah, nous n'avons pas le choix. Des fois ces assemblées sont indispensables, nous n'avons pas le choix. Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَعُتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Il dit si vous n'avez pas d'autre choix, que pas d'autre possibilité que de vous asseoir sur le chemin, alors donner à la route son droit, son dû. Et c'est en partant de ces hadiths qu'on va rassembler donc tous les bienséances, les comportements, dont la conduite dont doit se doter le musulman pour donc ce qu'on appelle les droits de la route. Et donc dans ce même hadith, les compagnons ont posé la question, ils ont dit وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Quel est le droit de la route au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Raddul Basar, donc le fait de dévier ou baisser le regard, wa kafful adha, le fait d'empêcher, de ne pas nuire aux autres, de ne pas porter nuisance, wa Raddul Salam, le fait de remettre le salam, salamu alaykum, wa al-amru bil ma'ruf, le fait d'ordonner le bien, et wa nahyu anil munkar, le fait de blâmer, interdire le répréhensible. Et donc dans ce hadith, dans cette version rapportée par le Bukhari ou Muslim, on retrouve 5 parmi les bienséances, les droits de la route, parmi les comportements adoptés sur la voie publique. Également dans un autre hadith rapporté par Abu Talha radiallahu anhu, il dit nous étions assis dans l'Afniya, donc les savants disent la cour, un espace devant la maison, une plaine ou une cour devant les maisons, devant les demeures. Il dit natahaddathu. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال donc le prophète صلى الله عليه وسلم est venu et a dit ما لكم ولمجالس السعودات والطرقات. Il a dit qu'avez-vous à vous asseoir sur les endroits publics et sur la route. Et ensuite il dit اجتنبوا مجالس السعودات. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit évitez les assemblées sur les routes, sur la voie. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس. Ils ont dit nous sommes réunis sans faire de mal. Nous sommes réunis sans dans aucune mauvaise intention et nous ne faisons rien de mal. Ils disent qadna natadhakaru wa natahaddath. Ils disent nous sommes assis ensemble, nous rassemblés pour discuter entre nous et pour discuter entre nous. Et le prophète s'est assuré de dire imma la fa'addu haqqah. Il dit s'il n'y a pas d'autre possibilité, donnez le droit à ces assemblées sur la route, et de dire Raddul Basar, le fait de baisser le regard, ou Raddul Salam, le fait de répondre au salam, à la salutation, et ce qui est nouveau ici, la nouvelle bienséance, ou Husnul Kalam, et la belle parole, la bonne parole. Et le hadith est rapporté par l'imam ou Muslim rahimahullah. Donc on est sorti avec certaines bienséances de ces hadiths. Et quand on rassemble tous les hadiths avec toutes leurs versions qui ont trait donc au droit de la route, on peut encore dénombrer les bienséances suivantes. Il y a donc Husnul Kalam qu'on a cité. Il y a également Tashmitul Atis, donc le fait de dire Yarhamukallah à celui qui éternue et qui dit Alhamdulillah, comme on va le voir. Wa Irshad al-Sabil, le fait de guider la personne, le voyageur qui ne trouve pas le chemin. Également Arif al-Malhouf ou Aïn al-Mazloum, donc le fait de porter secours, assistance à celui qui subit une injustice et celui qui est désespéré et qui a subi par exemple une injustice ou autre. Et également on a Aïn al-Hamoula, et le fait d'aider la personne à porter des charges ou autres, des objets. Ou ahdul a'ma, le fait également de guider, de montrer son chemin à l'aveugle. Et pour terminer également, zikrullahi kathira, le fait de se remémorer Allah Azza wa Jal, le rappel d'Allah Azza wa Jal de manière abondante. Donc ça, c'est tous les bienséances, toutes les bienséances que l'on peut retirer, déduire de l'ensemble de ces hadiths avec leurs différentes versions. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah dit, le fait de cet ordre, cette injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éviter les assemblées sur le chemin sont pour les raisons suivantes. Il dit, c'est pour ne pas par exemple apercevoir lorsqu'on s'assied sur les chemins, on risque d'apercevoir bien sûr des femmes ou autres, ce qui peut donc amener une tentation, amener au regard. Également, il y a des droits des musulmans dont il ne pourra peut-être pas s'acquitter, contrairement au fait que lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est chez lui, il ne sera pas donc dans des situations où il doit donner par exemple des droits aux autres, comme par exemple répondre au salam ou le fait de faire aussi l'amr bil ma'ruf, ordonner le bien ou blâmer le répréhensible. Tout cela, ce sont des obligations auxquelles il s'expose parce qu'il est sur le chemin, sur la voie publique. Et donc il est déconseillé de rester sur le chemin, car il ne faut pas se mettre dans des situations où il pourrait ne pas être capable de s'acquitter de ses différentes obligations. Et Inch'Allah, donc, comme on a cité ces différentes bienséances, on va les passer en revue, Inch'Allah, ta'ala, une par une. Et en commençant par la première, qui est Raddul Basar. Et bien sûr, Raddul Basar, c'est devenu à notre époque quelque chose de difficile, car parmi les signes également de la fin du temps, vous connaissez le hadith, al-kasiyat al-ariyat, donc les habillés et nus tout à la fois, qui sont nombreuses malheureusement de nos jours, qu'Allah ne les multiplie pas, donc ces femmes qui sont habillées et nues à la fois, et qui sont bien sûr beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, donc c'est devenu donc une épreuve pour beaucoup de gens, le fait de baisser le regard. Et cela dû donc à la manière de se vêtir de beaucoup de femmes et malheureusement de beaucoup de nos sœurs musulmanes également. Et Allah Azza wa Jal dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah Azza wa Jal dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe. ذَلِكَ أَسْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Et Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, dit, ceci est un ordre d'Allah à ses serviteurs, de baisser, de dévier le regard par rapport à ce qu'il leur a été interdit de regarder. Et de ne regarder que ce qui leur est permis, que ce qui est permis de regarder, et de baisser le regard par rapport aux interdits. Et si leur regard devait malgré tout tomber sur ce qui est interdit, donc s'il devait tomber inopinément, donc de manière non intentionnelle sur quelque chose d'interdit, qu'il dévie le regard rapidement, le plus rapidement possible. Également, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dit, le regard est la principale porte, la principale voie au cœur. Et c'est une voie très dangereuse. Et donc, baisser le regard est obligatoire par rapport à tout ce qui est interdit et tout ce qui peut constituer une tentation. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit également dans un hadith muttafaqun alayhi, rapporté par al-Bukhari wa Muslim, كُتِبَ عَلَى بْنِ آدَمَ حَفْظُهُ مِنَ الزِّنَا. Donc le prophète Hassan dit, il a été prescrit, inscrit pour le fils d'Adam sa part de fornication, de zina. أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَ. Il dit qu'il va obtenir, il ne peut pas échapper à cela. فَزِنَ الْعَيْنِ, donc à la suite du hadith, فَزِنَ الْعَيْنِ الْبَصَر. Il dit la fornication du regard, la fornication de l'œil, c'est le regard. La fornication de l'œil est le regard. Pourquoi la fornication de l'œil? Parce que cela est une des muqaddimat, une des introductions, des prémices au zina réel, qui est la fornication avec les corps. Mais donc comme le regard est comme une voie vers le cœur, c'est ce qui mène, c'est une des prémices, une des introductions qui mène au zina réel, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre le fait de faire suivre le premier regard d'un second regard. Car le premier, lui, n'est pas comptabilisé, n'est pas pris en compte, donc n'est pas inscrit par rapport à la personne, il ne lui est pas inscrit, il ne lui est pas tenu il n'est pas tenu pour responsable du premier regard, contrairement au suivant. Et dans un hadith Hassan rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, le prophète alayhi salatu wa salam dit Ya Ali, il fait donc une recommandation à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il dit La tutbi' nazratan nazra, il dit ne fais pas suivre le regard d'un autre regard. Fa inna laka al-ula wa laysa laka al-ukhra. Il dit car le premier est pour toi, mais pas le second. Et le premier pour toi, c'est-à-dire que le premier n'était pas comptabilisé. Tu n'as pas de péché par rapport au premier regard, mais bien par rapport au second. Et également, dans un autre hadith, un compagnon a demandé au prophète Hassan par rapport au regard inopiné, c'est-à-dire au regard qui n'est pas intentionnel. Et il dit, فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. Et il m'a ordonné de dévier, de détourner mon regard. Et dans une version, il a dit, اُتْرُقْ بَصَرَكْ. Il a dit donc, détourne ou baisse ton regard. Ça y est, regarde vers le sol. Et le hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Par rapport au hadith, est-ce que quand Allah Azzawajal dit, par rapport au verset, pardon, lorsqu'Allah Azzawajal dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, donc de baisser le regard. Min, ici, min, dans la langue arabe, peut avoir plusieurs significations. Et dans ce cadre-ci, les savants donc se sont posé la question quelle est la signification de min ici, et bien sûr la parole qu'il emporte ici par rapport aux différentes paroles des ulama, c'est que min ici, c'est-à-dire c'est dit tabarid, c'est-à-dire une partie du regard, pas tout le regard est interdit, il y a certaines exceptions. Il y a certaines exceptions. Alors quelles sont ces exceptions également là? Les ulama ont étudié quelle est l'exception par rapport au regard. Et quand on regarde dans la Sunna, il y a certains textes qui font exception donc par rapport à l'ordre général de l'interdiction. Par exemple, lorsque la personne veut, comme on a dit bien sûr, le premier regard, qui lui n'est pas considéré comme la personne n'est pas considérée comme pécheresse avec le premier regard. Également, lorsque le musulman, par exemple, désire se marier, il a le droit de regarder la femme avec laquelle il désire se marier. Donc cela également est une exception par rapport à l'ordre général. Et on tire cela d'un hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu qui dit qu'un homme est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit « Je me suis marié avec une des femmes des Ansar, donc Ansar, les gens de Médine. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Anadarta ilayha. Est-ce que tu l'as regardé avant donc de contracter mariage? Est-ce que tu l'as regardé? Tu l'as observé? Il a dit non, je ne l'ai pas fait. Qal fadhhab fanzur ilayha fa inna fi ayuni al-ansar shay'a. Il dit va et regarde-la car il y a dans les yeux des Ansar quelque chose. Donc il dit va et regarde cette femme car dans les yeux des femmes des Ansar, dans les Ansar en général, donc il y a quelque chose de particulier. Et on a plusieurs autres hadiths donc qui nous montrent la permission de regarder, que le musulman a le droit de regarder la femme avec laquelle il désire donc se marier. Donc ça c'est une des exceptions, et bien sûr également en cas de force majeure, quand c'est pour sauver par exemple une femme d'une noyade ou d'un incendie ou autre également, bien sûr, ou par exemple dans des cas d'opérations urgentes, et qu'il n'y a pas de médecin femme ou, bien sûr, tout cela sont des cas également qui font exception par rapport à l'ordre général de baisser le regard. Et également, bien sûr, cette interdiction générale de regarder vers d'observer, de contempler le sexe opposé s'applique également aux femmes. Mais, pour insister encore, alors que vous savez que tous les ordres du Coran et de la Sunna s'appliquent aux deux sexes, sauf quand il y a quelque chose qui vient stipuler que cet ordre, cette injonction est particulière à l'un des sexes, à l'exception de l'autre. Mais ici, Allah Azza wa Jal a précisé, à la suite du verset, il a dit également, Subhanahu wa ta'ala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Et dit aux croyantes de baisser leur regard pour insister également, alors que le premier ordre s'adresse à elles, mais pour insister également sur le fait que les femmes doivent également baisser leur regard. Et bien sûr, certains ulama comme l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah a dénombré toutes les bienfaits qu'on retire du fait de baisser le regard, et il a donc dressé une liste de tous les bienfaits qu'il serait trop long donc de citer ici, de tous les bienfaits que récolte la personne par rapport donc au fait de baisser le regard. Bien sûr, on va passer ces bienséances en revue de manière assez résumée, car vous imaginez bien que si on presque chaque ou beaucoup de ces bienséances, certaines de ces bienséances peuvent constituer une conférence à elle seule. Donc on va les passer en revue de manière assez résumée. La deuxième bienséance qui a été relatée dans les hadiths, kaful adha, le fait donc de ne pas importuner, de ne pas déranger, de s'abstenir de nuire aux gens dans la rue. C'est ce qu'on appelle kaful adha et qui a été relaté dans les hadiths. Et par rapport aux passants, c'est par exemple le fait de ne pas se mettre là où cela pourrait les gêner, ou de ne pas laisser d'obstacles qui pourraient les gêner, ou comme font certains par exemple s'asseoir sur le pas de leur porte, ou carrément sur leur voiture, ou dans les halls d'immeubles. Tout ça constitue min al-adha, ça porte nuisance donc aux gens dans l'espace public. Également ne pas jeter, comme on a dit, ses restes dans la rue, ou ne pas également ôter de la rue tout ce qui peut constituer une obstruction, donc ce qui obstrue le passage des gens et qui constitue des nuisances, comme ça peut être des morceaux de bois, des morceaux, des détritus et toute autre chose. Et les hadiths donc en ce sens sont très nombreux, également ceux qui citent la récompense qu'a le musulman en ôtant du passage les choses qui gênent, imatatul adha. Vous connaissez tous le hadith où le prophète alayhi salam dit que la foi est constituée de 70 et quelques branches, et il dit parmi ceux-là la plus basse des branches, en effet, c'est imatatul adha anit tariq, le fait d'ôter tout ce qui obstrue le passage des gens, de retirer cela. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'un homme marchait sur une voie, baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariq, alors qu'un homme était en train de marcher sur une route, il a trouvé une branche épineuse qui était sur le chemin. Fa akharahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a simplement mis sur le côté pour ne pas que cela gêne les gens. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Et il dit, Allah Azza wa Jalla l'a remercié pour cela et il l'a pardonné. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et également, le fait de ne pas faire, et malheureusement, ça va faire rire certains, mais c'est une réalité qu'on a déjà pu voir de nos propres yeux, c'est certains de nos jeunes musulmans qui, akramakumullah, lorsqu'ils ont un besoin, ils vont carrément uriner sur les murs. Hein, ils urinent sur les murs avec cela, bien sûr, implique comme inconvénient le fait qu'ils vont seulement uriner sur leurs vêtements et autres, et cela représente des impuretés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqul la'inain, donc prenez garde aux deux choses qui attirent la malédiction des musulmans et des gens. Et ils ont dit mal la'inain ya rasulallah, il dit quelles sont ces deux choses au messager d'Allah? Il a dit الذي يتخلى في الطريق, il est celui qui fait ses besoins sur le chemin, yani fi tariq al-nas, donc sur le chemin des gens, ou fi dhillihim, ou dans les endroits d'ombre, surtout dans les pays chauds. Il y a des endroits par exemple parfois qui sont pas très nombreux, en dessous des arbres ou en dessous de certains bâtiments ou autres, où les gens peuvent aller se réfugier de la chaleur. Et celui qui fait ses besoins là, bien sûr, c'est aussi parmi les causes qui attirent la malédiction des gens, car il importune les gens surtout dans ces endroits où ils ont besoin d'aller pour se mettre à l'abri de la chaleur et du soleil. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et donc tout cela, ici, ça s'applique aussi à tout ce qu'on a dit, aux détritus, tout ce qui peut importuner les gens, les mégots de cigarettes et tout cela. Il y a également une remarque que je voudrais faire par rapport à une attitude qui est surtout, je crois, caractéristique des gens du Maghreb, qui est le fait de ramasser les morceaux de pain. Et Yanni se base là-dessus, il y a un hadith, Allah, que certains gens de science ont rendu authentique, qui est akrimul khubs, c'est-à-dire faites honneur au pain. Et lorsque les gens, en général, j'ai remarqué ça surtout chez les gens du Maghreb, voient par exemple du pain, je ne sais surtout au Maroc, je ne sais pas dans les autres pays, ils voient du pain, ils ont l'habitude de le mettre sur un endroit élevé. Hein, vous avez sûrement déjà remarqué ça sur un endroit élevé, souvent sur comment on appelle ça, près de la fenêtre, sur les appuis de fenêtre ou autre, Yanni. ça, d'accord, mais il ne faut pas non plus que ça provoque une nuisance aux gens. Parce que la petite fenêtre ne t'appartient pas. Et tu mets pas un morceau de pain qui est sale, et tu le mets sur la petite fenêtre des gens, ça ne va pas non plus. Alors si tu veux faire ça, ramasse-le, mets-le par exemple, va la porter dans un parc pour les oiseaux, ou près où il y a un bout de terre, etc., où ça ne va gêner personne, mais pas sur la petite fenêtre des gens, car cela également, lorsque toi tu sors, tu vois un morceau de pain trempé ou sale sur ton petite fenêtre, c'est pas non plus quelque chose de très agréable. Donc ça, c'était juste aussi une remarque par rapport à cela. La bienséance suivante, c'est ifsha al salam wa radd al salam. Donc le fait, tout ce qui a trait au fait de à ce qu'on appelle la formule, donc assalamu alaykum, par rapport à cette formule là, tout ce qui a trait à cela. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit, il faut au moins, lorsqu'on prononce cette parole, élever la voix de manière à ce que le musulman, la personne, donc l'entende et puisse lui répondre. Donc puisse entendre ce qu'il dit, qu'il dise bien assalamu alaykum. Et s'il ne se fait pas entendre, il n'aura pas concrétisé le salam et il n'est pas obligatoire de lui répondre. Donc ça, c'est ce que l'imam Nawawi rahimahullah dit, donc il faut bien élever la voix. On voit certains, ils disent le salam de telle manière, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont dit. Et dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire de lui répondre parce qu'on n'a même pas perçu clairement ce qu'il a dit. Et s'il y a une exception, c'est par rapport à celui qui rentre dans une pièce où se trouvent des gens qui dorment et certains sont en état d'éveil. Donc parfois vous rentrez dans une pièce, une chambre où il y a certains qui dorment déjà et certains sont encore réveillés. À ce moment-là, la sunna, comme il est rapporté dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit qu'un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaji'u min al-layl. Il dit le messager d'Allah venait la nuit et il dit fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa la yusmi'u al-yaqadhan. Il dit donc donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de nuit et lorsqu'il saluait, il saluait d'un salut, une salutation qui ne réveillait pas ceux qui dorment et qui en même temps faisait que ceux qui étaient éveillés l'entendent. Donc pas non plus comme certains, ils rentrent dans la pièce, assalam, ils commencent à crier, ceux qui étaient endormis, tous sont réveillés, ils s'effrayent, etc. Ça, c'est une erreur. Donc il faut modérer sa voix lorsqu'il y a des gens qui dorment pour ne pas les déranger et les réveiller en même temps pour que ceux qui soient éveillés donc l'entendent. Et toujours l'imam Nawawi rahimahullah dit, il est détestable que lorsqu'on rencontre un groupe de gens, de spécifier certains donc avec le salam, car le salam justement est légiféré, comme on va le voir dans plusieurs hadiths, pour amener l'entente et la fraternité et l'amour entre les musulmans. Et donc qu'est-ce que font certains? Il y a tout un groupe de gens et lui juste il va chez un ou bien il dit salam alaykoum ya fulan ya Mohamed ou la Aje, et le reste comme s'il les ignore. Et ça, bien sûr, ça peut amener, il y a ni du ressentiment chez les autres. On dit pourquoi juste lui, le salam, nous. Donc ça également, c'est une erreur. Il faut généraliser avec le salam le groupe de gens qu'on rencontre. Et parmi les hadiths qui ont stipulé le mérite de salam, donc de propager le salam, de dire salam alaykoum, on a plusieurs hadiths, on va en citer quelques-uns. Parmi les hadiths, le premier rapporté par le Bukhari ou Muslim, où le prophète alayhi salatu wasalam dit, un homme est venu donc, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu dit, un homme est venu trouver le messager d'Allah et lui a dit, quel est le meilleur islam? Quel est le meilleur islam? Quels sont les meilleurs actes dans l'islam? Il dit, tout aimut ta'am. Il dit, c'est de nourrir les pauvres, les indigents. Wa taqra'u salam. Il dit, il dit, c'est de lire, de dire le salam, de prononcer le salam à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Il dit à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Donc également ici, c'est par rapport à ce qu'on disait tantôt, de ne pas particulariser certains avec le salam, mais de généraliser même les gens qu'on ne connaît pas, s'ils sont musulmans, de leur dire assalamu alaykum. Parmi les salam également, on peut dire parmi dans cette formule que c'est également un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla. Avec salam, c'est un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de propager le salam, c'est également, ça constitue donc un dhikr, c'est le fait de prononcer un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, inna salama ismun min asma'illahi fa afshuhu baynakum. Il dit, le salam est un nom parmi les noms d'Allah, des noms d'Allah, propagez-le entre vous. Et dans une autre version, il dit, c'est un nom parmi les noms d'Allah, udiya fil ard, qui a été mis sur terre, propagez-le entre vous. Et dans un autre hadith, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que c'est la manière d'amener et d'instituer l'amour, l'entente entre les musulmans. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous entremiez, ne vous indiquerai-je pas un moyen qui, si vous le mettez en application, vous entremeriez, le fait de propager le salam, afshus salam beynakum, propager le salam entre vous. Et parmi le sens, la signification de As-Salam, lorsqu'on dit As-Salamu alaykum, ici les savants ont plusieurs paroles. Le Hafiz ibn Hajar Rahmah dit, il y a plusieurs paroles parmi les savants par rapport à la signification de As-Salam. Et Al-Qadi Riyad Rahimahullah dit que sa signification, il dit, c'est un nom parmi les noms d'Allah. C'est comme si on disait que la protection d'Allah soit sur toi, que la protection d'Allah soit avec toi lorsqu'on dit As-Salamu alaykum. Et certains ont dit également, ça peut avoir cette signification, c'est le fait de dire, et c'est pour ça que certains ont dit, lorsque tu dis aux gens de désobéissance ou aux gens de dire salam alaykum, c'est comme si tu leur disais, Allah sait ce que tu fais et voit ce que tu fais. Inna Allah muttali'un alayk fi ma taf'al wa ma taqul. Il dit donc qu'Allah Zawajal voit et sait ce que tu fais. Et certains ont dit également son sens, sa signification, c'est assalam, à la sécurité. Il y a la sécurité et la quiétude. Et cela par exemple dans le contexte, dans le verset où Allah dit fasalamun laka min ashabil yamin, donc là ici dans le sens de la sécurité, qui n'a rien à craindre, la sécurité. Et donc lorsque le musulman également dit assalamu alaykum à son prochain, il lui déclare qu'il est à l'abri, que ce prochain est à l'abri de toute nuisance de sa part et qu'il n'a aucune crainte à avoir. Même quand on dit assalamu alaykum, c'est à dire qu'on est venu en paix, que également cette personne n'a aucune crainte, il ne doit pas être donc sur ses gardes, qu'on vient pas pour lui causer une nuisance qui n'a rien à craindre de notre part. Donc ça c'est pour la signification de As-Salam. Également, il est détestable de saluer avec un signe de la tête ou du doigt ou de la main. Et certains savants ont dit, à l'exception du cas de celui qui est loin, de telle manière qu'il ne peut pas se faire entendre oralement, et à ce moment-là, il lève par exemple la main, ou il fait un signe de la tête, tout en prononçant, ils ont dit, le salam. Car on a un hadith où le prophète Hassan a dit, ne saluez pas la situation des juifs et des chrétiens. Dans une version, il dit, salue avec la tête, ou avec le doigt, ou avec la main, ou avec le doigt. Mais certains savants, en se basant également sur le fait que le prophète Hassan est passé près des femmes, et il les a salués aussi en faisant un signe de la main, ils ont dit, si la personne, pour une raison, comme par exemple le fait l'éloignement, il sait que cette personne ne va pas l'entendre, ne va pas entendre son salam, à ce moment-là, il dit salam alaykoum tout en par exemple en le faisant sim wallah alaykoum. Également, le mérite qu'a celui qui commence le premier à dire salam. Quel est son mérite, celui-là? Qu'est-ce qu'il a comme mérite? Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permis à un musulman de rompre les relations avec son frère, donc en dispute, de rompre les relations avec son frère plus de 3 jours. Et le meilleur des deux, c'est celui qui commence, qui renoue les relations. Et pour renouer les relations ici, il suffit de dire assalamu alaykum. Donc si les deux personnes se sont disputées, il n'est pas permis de rompre les relations plus de 3 jours. Et le meilleur des deux, c'est celui qui revient vers l'autre en premier, qui renoue donc les relations pour se réconcilier avec lui, en disant assalamu alaykum. Et également dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mashiyani idha ijtama'a fa ayyuhuma bada bis-salam fa huwa afdal. Il dit, les deux personnes qui se rencontrent, celui des deux qui commence avec le salam, celui qui précède l'autre avec le salam, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur des deux. C'est celui qui commence donc avec le salam. Dans un autre hadith également, le prophète sallam dit « Inna awla nasi billahi man bada'ahum bis-salam ». Il dit, la personne prioritaire à Allah, qui est le plus proche d'Allah, yani awla nasi billah, c'est celui qui commence par dire le salam, celui qui dit le salam en premier. Et également dans un autre hadith, le prophète sallam dit l'homme, lorsque la personne passe par un groupe et il passe fasallama alayhim, il leur passe donc le salam, il dit assalamu alaykum, et qu'il lui remette ce salut, c'est lui qui a un degré donc en mérite en plus, car c'est lui qui leur a rappelé le salam. Donc si les autres étaient insouciants et tout, lui il est venu quand il est passé assalamu alaykum, c'est lui qui a un degré, il a une récompense en plus, car c'est lui qui leur a rappelé le salam. فَإِنْ لَمْ يَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمُ أَتْيَبُ. Et si ce personne-là, malgré tout, ne lui répond pas, il y a des gens, ou il y a des meilleurs que eux, qui va répondre à cette personne. Qui sont ces gens? Les malaïques, les anges. Donc ici, même si la personne, certains parfois ils se mettent en colère, ils disent, ouais, pourquoi ils ne me répondent pas, ça. Et même si eux n'ont pas fait attention, sont insouciants, ne donne pas d'importance au salam, toi donne le salam, car les anges vont te répondre. Te répondra ceux qui sont meilleurs que eux, ceux qui sont meilleurs que ces humains-là qui t'ont ignoré ou qui ne t'ont pas rendu le salam. Donc toi tu es récompensé, et en plus de ça, c'est El Malaika qui te remet le salam alaykum. Et donc il convient de saluer tout le monde, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. Et parmi justement, dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wasalam dit que parmi les signes de l'heure, c'est que la personne salue uniquement ceux qu'il connaît. Dans ce hadith, il dit qu'il va passer près d'une mosquée et il va saluer seulement ceux qu'il connaît. Et ceux qu'il ne connaît pas, donc il ne les salue pas. Quel est donc le jugement maintenant? Quelle est la règle? Le jugement par rapport au fait de commencer, donc l'ibtida bis-salam, le fait de commencer à dire assalamu alaykum en premier. Al-Hafid ibn Hajar rahimallah dit, il n'y a pas de divergence quant au fait par rapport au fait que dire le salam en premier, c'est recommandé. Yani, ce n'est pas obligatoire. C'est, si la personne n'a pas salué en premier, il n'a pas un péché. Hein? C'est recommandé. Ça, il a une grande récompense si il dit salam alaykoum en premier. Mais si il n'a pas salué, yani, il n'a pas de péché. Donc c'est recommandé ce n'est pas obligatoire de dire salam alaykoum. Mais bien sûr, on a vu là l'immense récompense que perd la personne qui fait cela. Et bien sûr, également, il est, comme on a vu aussi, il est interdit par contre de rompre la relation plus de 3 jours avec son frère. Cela est interdit. Et par contre, la réponse, donc le fait de dire alaykoum salam, le fait de répondre au salam est obligatoire. Fard, wajib. C'est-à-dire, si la personne ne répond pas, il est en état de péché. Sauf s'ils sont à plusieurs et que quelqu'un, par exemple, salue, et l'un d'entre eux répond, cela suffit. Ce qu'on appelle une furud al-kifaya. Si maintenant il y a un groupe de gens, 2, 3, 4, qui sont là, et moi je dis assalamu alaykum, il suffit que un d'entre eux me réponde pour que les autres, c'est lui qui s'est acquitté de la responsabilité du groupe. C'est pas les 4 ou les 2 ou les 3 doivent me répondre. Si un d'entre eux me répond wa alaykum assalam, cela donc suffit. Et les autres, il a évité le péché pour les autres. C'est ce qu'on appelle une furud al-kifaya. C'est une partie s'en charge, les autres en sont acquittés. Et donc la réponse est obligatoire par rapport au verset où Allah Azza wa Jalla dit فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. Il dit, Allah Azza wa Jalla dit, répondez de manière meilleure ou répondez au moins à la salutation. Et c'est pour ça que l'élément dit, il est recommandé aussi, il est mustahab, recommandé d'ajouter au salam qu'il a dit. Par exemple, si la personne me dit assalamu alaykum, il est recommandé de dire wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Et donc de rajouter, cela est recommandé d'ajouter. Et ici, je voudrais attirer également l'attention des frères sur une erreur qui est fréquemment commise et qui est de ne pas remettre le salut en entier. C'est-à-dire que parfois la personne commence, parce que comme dans le hadith, où la personne est venue, il a dit assalamu alaykum, le prophète a dit 10. Une fois, et puis il a dit, un autre est venu, il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il a dit 20. Une tierce personne encore est venue, une troisième personne est venue, il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, et le prophète a dit 30. Il y a le nombre de hasanat, de mérites et de récompenses qu'ils ont acquis chacun. Et ici, il y a parfois des gens donc, qui viennent, et qui disent à leur frère, ils viennent dans un, ils disent assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et l'autre qui répond alaikum salam. Ça c'est une erreur. Pourquoi? Il va à l'encontre du verset où on a dit yani urudduha, ou répondez-y. Si la personne est venue avec les trois formules, yani il est obligé de répondre la même chose, il ne peut pas dire alaikum salam. S'il a dit, l'autre a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, le minimum qu'on peut répondre c'est quoi? Alaikum salam wa rahmatullah. Si on va ajouter, c'est recommandé wa barakat. Mais ce n'est pas permis. Si l'autre vient et dit assalamu alaikum wa rahmatullah, toi tu réponds wa alaikum salam. Ça c'est une erreur. Et ça c'est une erreur donc parfois d'insouciance, du laisser aller de la part des frères qui ne font pas attention, et donc il faut faire attention à cela. Également, parmi les bien-sciences que nous a enseigné l'islam par rapport au salam, c'est lorsqu'il veut pénétrer dans une demeure, aller rentrer quelque part, il faut demander l'autorisation en disant d'abord assalam. Hein? À l'époque du prophète assalam, par exemple, on toquait et tout, on dit assalamu alaikum, atroul. Est-ce que je peux rentrer? D'abord en disant assalamu alaikum. Pas on rentre atroul sans dire le salam, ça c'est une erreur. Même quand on sonne chez quelqu'un, on dit assalamu alaikum. Est-ce qu'un tel est là? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que... Également, avant la parole, avant de parler à quelqu'un, il convient de commencer avec assalamu alaikum. Pas certains, ils viennent là, hein, comme c'est fréquent, ils viennent et disent, oh, t'as pas vu l'autre, sans dire salam, sans rien du tout. Hein, ça, c'est une erreur aussi de comportement. D'abord, il convient que la personne vienne, dit assalamu alaikum, et ensuite, il lui pose sa question et demande ce qu'il doit demander. Parmi la manière, donc, il y a certaines conduites à respecter par rapport au salam, c'est que le petit nombre doit commencer à saluer le nombre plus important. C'est-à-dire, si tu es tout seul, tu dois saluer ceux qui sont deux. Si ils sont à deux, tu dois saluer ceux qui sont plus nombreux, et ainsi de suite. Également, le plus jeune commence à saluer celui qui est plus âgé. Pas le vice-versa, pas le contraire. Celui qui est plus jeune salue en premier celui qui est plus vieux. Celui qui est debout salue celui qui est en position assise, celui qui est assis. Et cela, tout cela a été relaté dans un hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète, alayhi salam, dit « Yusallimu s-sarir wa al-kabir ». Il dit le petit, le plus jeune, salue le plus âgé. Et il dit « Wal-mar wa al-qa'id ». Il dit le passant, celui qui est piétonnier, donc qui marche, le piéton, par rapport à celui qui est assis. Celui qui salue celui assis. « Wal-qalil wa al-kathir ». Et le plus petit nombre par rapport au plus grand nombre. Le plus petit nombre, c'est eux qui saluent, donc qui passent le salam en premier, ou ceux qui sont un nombre plus important. Également, ce qu'on a retiré de la sunna, celui qui est véhiculé, surtout à l'époque, celui qui est raqib, donc celui qui est sur un chameau, sur un cheval, ou sur un âne ou autre, c'est lui qui dit le salam à celui qui est piéton, ou celui bien sûr qui est assis, ça va de soi. Également, celui qui vient, donc celui qui marche, il commence à dire salam alaikum à celui qui est en position fixe, qui l'attend par exemple. Et si tous les deux sont dans une situation identique, c'est-à-dire tous les deux marchent l'un vers l'autre, par exemple, le meilleur c'est celui qui dit le premier, on revient en texte généraux, le meilleur des deux c'est celui qui dit en premier assalamu alaikum. Et celui qui prie, même celui qui prie, donc il répond au salam en tournant la paume, le dos de la main vers le haut. Donc il tourne comme ceci, la paume de la main vers le haut, vers son visage. Il tourne le dos de la main vers le haut, vers son visage. Cela également a été relaté dans plusieurs hadiths. Donc ça c'est quelques bien-sciences par rapport au salam. Également, il ne faut pas négliger le salam par rapport aux enfants. Le prophète salam, toujours, il passait même le salam, il saluait les enfants. Également, il est permis aux hommes de saluer les femmes et vice-versa, bien sûr, mais à l'abri de toute tentation. Donc on a un hadith où le prophète, ce qu'on a dit tantôt, a salué un groupe de femmes. Et également, Ummu Hani, lorsqu'elle est rentrée, radiallahu anhu, lorsqu'elle est rentrée chez le prophète salam, elle lui a donné, donc elle a dit assalamu alaikum. Donc il n'y a pas un interdit en tant que soi à la base qui interdit aux hommes de passer le salam aux femmes ou vice versa, mais bien sûr à l'abri lorsque la tentation donc est évitée, à l'abri de toute tentation, hein, donc pas lorsque par exemple une jeune fille, un jeune homme se croise dans la rue, par exemple dire salamu alaikum ou autre, ça peut être une source de tentation ou autre, ou que Shaitan vienne faire imaginer certaines choses. Mais lorsque, par exemple, il est à l'abri de toute tentation et de toute chose, de tout point douteux, à ce moment-là, il n'y a pas une interdiction, donc il interdit que les hommes saluent aux femmes et vice-versa. Également, par rapport au salam wa alaykum, qui a cette sacralité, il ne convient pas de saluer en premier les non-musulmans avec ce salam-là, assalam wa alaykum. Mais, si un besoin se fait sentir, il n'y a pas de mal à leur dire d'autres formules de politesse comme bonjour, comment allez-vous, etc. Mais assalamu alaykum, ça a donc une sacralité. Donc, ça, comme on a vu tantôt, c'est un nom parmi les noms d'Allah et autres, ça a plusieurs significations très nobles, et il ne convient pas, il est interdit de saluer en premier les non-musulmans avec cette formule assalamu alaykum qui est particulière, donc spécifique aux musulmans, réservée aux musulmans. Si on se trouve, comme cela nous a été relaté également dans la Sunna, si on se trouve parmi un groupe où il y a un mélange de musulmans et de non-musulmans, on dit le salam, assalamu alaykum, en visant les musulmans. Et c'est cela la Sunna. Le prophète Sassim est passé un jour près d'un groupe où il y avait akhlat, donc des mélanges de polythéistes et d'idolâtres et de musulmans, et il a dit assalamu alaykum, en visant les musulmans. Mais lorsque la personne est en train de commettre sa désobéissance, par exemple le fait de vous passer près de quelqu'un qui est en train de fumer un joint ou de boire de l'alcool ou autre, bien sûr, sur ce moment-là, il ne faut pas saluer pour montrer qu'on est en désaccord, qu'on ne cautionne pas sa désobéissance. Car si vous, en plus, il est en train de boire, par exemple, quelque chose dans la rue et tout, et vous vous dites salam alaykum. Salam, yani, au contraire, vous lui donnez un honneur. Vous l'honorez en lui disant salam alaykum, alors qu'il est en train de désobéir à Allah Azzawajal de manière claire et évidente, au su, au vu, de manière manifeste, au su, au vu de tout le monde. À ce moment-là, bien sûr, ici, vous ne le saluez pas jusqu'à ce qu'il abandonne sa désobéissance, et lorsqu'il abandonne sa désobéissance, vous pouvez aller vers lui et lui le conseiller, ou même sur le moment même. Donc ici, par rapport au fait de ne pas donner le salam aux gens de la désobéissance et aux gens de l'innovation, comme on dit, c'est relié à al-masalih wa al-mafasid, et c'est parmi les points les plus difficiles parfois à aborder. C'est ce qui est relié à al-mafasid wa al-masalih. Donc les points d'avantages et d'inconvénients, des intérêts et des inconvénients, ce n'est pas toujours évident. La personne peut se tromper par moment, dans le fait de considérer al-masalih wa al-mafasid. Et bien sûr, ce sujet-là, comme on dit, c'est un sujet aussi assez important, car beaucoup de gens l'ont mal compris et font un petit peu n'importe quoi à ce sujet. Parfois avec de bonnes intentions, sous prétexte de revivifier la sunna, ou pour des intentions nobles au départ, mais malheureusement ils font un petit peu n'importe quoi au gré de leur tempérament ou autre, et causent parfois plus de dégâts que de bien par rapport à ce point-là. Également, lorsqu'on se sépare, donc il faut dire le salam. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ وَمِنَ الْأُخْرَى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsqu'il veut se lever, lorsqu'il était réuni avec des gens, et lorsqu'il veut se lever, qu'il dise assalamu alaykum. Car la première n'était pas, yani, plus obligatoire que, plus instituée que la seconde. C'est-à-dire que lorsque vous venez, on a vu, il faut dire assalamu alaykum. Lorsque vous venez vous asseoir avec des gens, vous allez dire assalamu alaykum. Le fait de partir, c'est-à-dire la première ici n'est pas plus indiquée que la seconde. La seconde aussi, elle est tout autant indiquée. C'est-à-dire la seconde, lorsque vous allez vous lever, vous allez partir également, c'est indiqué de dire assalamu alaykum. Également, il est conseillé de serrer la main, d'accompagner le salam lors de la rencontre avec le serrement de main, le fait de se serrer la main, et on a beaucoup de hadiths à ce propos. Quels sont maintenant, pour terminer avec assalam, donc quelles sont les situations, les cas où il est détestable de dire assalamu alaykum, ou pour la personne de répondre? C'est lorsque, par exemple, il fait ses besoins. Lorsque la personne est en train de faire ses besoins, il peut répondre au salam, mais il lui est conseillé donc qu'il réponde après s'être purifié. C'est-à-dire soit avec les ablutions, après avoir fait ses ablutions, ou même avoir procédé aux ablutions sèches, tayammum. Donc, car on a vu que c'est ce qui a été relaté dans un hadith aussi, où le prophète sallam dit assalam, donc c'est un nom parmi les noms d'Allah, et j'ai détesté de dire le nom d'Allah en étant en non état de pureté, c'est en n'ayant pas, parce qu'il avait fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est conseillé ici, lorsqu'on va répondre, d'abord de se purifier, de procéder à ses ablutions, ou au moins aux ablutions sèches à tayammum, avant de répondre au salam. La version suivante, c'est l'amr bil ma'roufi wa nahy anil munkar, donc le fait d'ordonner le bien et de blâmer le répréhensible. Et cela, bien sûr, constitue une conférence à elle seule, ce sujet, à lui seul. Et d'ailleurs, il y a une conférence qui avait été donnée à ce sujet. J'invite ceux qui voudraient plus de renseignements à ce sujet d'y revenir, car nous n'avons pas le temps. Donc le temps nous presse un petit peu, nous n'avons pas le temps de détailler ce sujet, surtout qu'il y a donc ce sujet a déjà été traité auparavant. Donc passons directement donc à la bienséance suivante, qui est husnul kalam, le fait, la bonne parole, le fait de bien parler. Et al-qadi Iyad rahimahullah dit, donc c'est une exhortation à bien se comporter avec les croyants et avec celui qui se trouve en rue. Car il se peut donc que les gens lui adressent la parole et lui posent des questions. Et il doit leur répondre de la meilleure des manières, et non pas de manière exaspérée et avec de manière dure. Hein? Lorsque vous êtes en rue, il se peut très bien des gens viennent, vous adressent la parole, vous accostent pour vous poser des questions, des renseignements ou autres. Donc justement ici, c'est là qu'il faut faire utiliser husnul kalam, faire preuve de husnul kalam, donc de parler avec ces gens-là, de leur répondre de la meilleure des manières. Et de nombreux hadiths donc stipulent et exhortent à la bonne parole, et Allah Azzawajal a ordonné à ses serviteurs de ne parler que de la meilleure des manières, car Shaitan justement peut utiliser l'arme de la parole pour semer la discorde et le ressentiment entre les gens. En effet, Allah Azzawajal dit « وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » Donc dit à mes serviteurs de n'utiliser que la meilleure des paroles, de ne parler que de la meilleure des manières. Inna shaytan yanzaru baynahum. Donc shaytan sème la discorde. Donc Allah Azza wa Jalla dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car shaytan sème la discorde parmi eux. Et shaytan, donc on a dit, peut utiliser cette arme, l'arme de la parole, pour vite justement semer la discorde. Et c'est des choses que nous avons tous vues. Combien de fois la parole n'a pas déchiré des gens, des familles, cassé des amitiés avec justement la parole. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit Inna shaytan kana lil insani aduwan mubina. Certes, Shaitan est pour l'homme un ennemi déclaré. Et dans de nombreux hadiths, le prophète Hassan nous a conseillé donc de faire preuve de husnul kalam. Il a dit alayka bi husnil kalam, donc fais preuve de bonne parole. Dans un autre hadith, atibil kalam, donc fais que tes paroles soient bonnes. Et également dans un autre hadith, le prophète Hassan dit inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Il y a au paradis des pièces dont l'extérieur se voit de l'intérieur, et dont l'intérieur se voit de l'extérieur, et vice versa. Qu'Allah Azzawajal a spécialement préparé pour les gens qui ont une parole douce, donc qui font preuve de paroles douces et gentilles. Donc ça, c'est par rapport à husnul kalam. Et la bienséance suivante, c'est ce qu'on appelle tashmit ou l'atis, le fait de faire dua donc en faveur de celui qui éternue. Yani tashmit ou l'atis, c'est celui tashmit, donc c'est le fait de manière générale de faire une invocation en faveur de celui qui éternue, de faire une invocation en sa faveur bil khayri wal baraka, donc une bonne invocation en sa faveur. Et vous savez que la formule à utiliser, c'est Yarhamukallah, parce que la personne dit Alhamdulillah, il convient de répondre Yarhamukallah. Et dans plusieurs hadiths, le prophète Sassim stipule cela. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit Inna Allah yuhibbu al-itas. Allah certes aime l'éternuement, wa yakrahu al-tafa'ub, et il déteste le bâillement. Fa'ida atasa ahadukum wa hamid Allah kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu Yarhamukallah. Donc si un d'entre vous éternue et qu'il loue Allah Azza wa Jal, il convient à chaque musulman qu'il a entendu de dire Yarhamukallah, de dire donc qu'Allah te fasse miséricorde. Dans un second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Si un d'entre vous éternue, qu'il dise alhamdulillah, walyakul lahu akhu wa usahibuhu, et que son frère ou son âme, ou celui qui est présent, dise Yarhamukallah. Celui qui est présent, qu'il lui dise qu'Allah te fasse miséricorde, فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ s'il lui dit يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ qu'Allah vous guide et donc arrange littéralement votre, vos affaires. Et la condition, donc on a vu qu'il y a une condition dans ce hadith pour qu'on puisse dire, lorsqu'on fait un tashmid, donc le fait de dire Yarhamukallah, de faire cette invocation en faveur de celui qui est éternu, c'est qu'ils disent Alhamdulillah. Et ici, c'est une erreur aussi que font certains, c'est qu'ils se dépêchent. À peine ils entendent quelqu'un qui est éternu, ils disent Yarhamukallah. Alors après, on remarque que la personne, il n'a rien dit du tout. Il ne dit pas Alhamdulillah ni rien du tout. Là, ici, il faut faire attention. Si la personne entend, il ne dit pas Alhamdulillah, on lui enseigne. On lui dit, le musulman, lorsqu'il éternue, il lui est conseillé de dire Alhamdulillah. Donc, la prochaine fois que tu viens, dis Alhamdulillah. Mais s'il n'a rien dit, on ne lui dit pas Yarhamukallah, on lui enseigne. Mais ici, certains se dépêchent. Dès qu'ils entendent même quelqu'un à 5-10 mètres, il éternue, il dirait qu'il dit Alhamdulillah. Il n'a pas entendu ce qu'il a dit Alhamdulillah ou là, rien du tout. Non. Donc la condition c'est que la personne dise Alhamdulillah pour dire Yarhamukallah. Dans un hadith justement dans Muslim, le prophète a bien précisé cela. Il a dit إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. Donc s'il dit, si un d'entre vous éternue et qu'il dise Alhamdulillah, dites-lui Yarhamukallah. Et s'il ne dit pas Alhamdulillah, ne lui dites rien. Ne lui dites pas donc Yarhamukallah, et ce hadith est rapporté par Muslim. Et donc, ceux auquel on ne dira pas Yarhamukallah, il y a bien sûr celui qui ne dit pas Alhamdulillah, mais en lui enseignant. Le mécréant, s'il éternue, on peut lui dire Yani Yahdikumullah wa yuslih balakum. Il y avait des juifs qui venaient à l'époque chez le prophète Hassan, mais ils éternuaient dans l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise Yarhamukallah ou Yarhamukumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Et le prophète qu'est-ce qu'il disait Yahdikumullah wa yuslih balakum. Le prophète leur disait qu'Allah vous guide et qu'il vous arrange. Également, celui qui est éternu, il y a différentes versions des hadiths et différentes paroles chez les ulama, walakin Allah alim. Le plus dans les hadiths, c'est celui qui est éternu plus de 3 fois de suite. Celui qui est éternu plus de 3 fois de suite, à la 4e, c'est qu'il a enrhumé. Et alors, il est conseillé d'invoquer en sa faveur pour qu'Allah le guérisse. Al-afia wa shifa. Voilà qu'il est celui qui est éternu plus de 3 fois de suite, yani celui-là, donc, c'est comme un des problèmes, maskoum, il est enrhumé. Et il ne doit plus dire Alhamdulillah, on ne doit plus dire Alhamdulillah, yani à la suite. Bien sûr, ça se passe un certain temps, il y a un certain laps de temps qui s'écoule. Puis il rééternue, on peut dire à ce moment-là, s'il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais celui qui éternue plus de 3 fois de suite, à la suite l'une de l'autre, celui-là à la 4e, donc c'est qu'il a enrhumé. Également, la parole ici prépondérante, c'est que tout, également le salam, donc salamu alaikum, et le yarhamukallah, la personne donc, tashmit, la personne ne le dit pas lors du sermon, la khutbah de l'imam. Si la personne vient et quelqu'un dit salamu alaikum, yani il se tait, ou il répond après la khutbah. Et également, si une personne éternue dit Alhamdulillah, on ne lui dit pas Yarhamukallah durant la khutbah. On attend que la khutbah se finisse, et après, si on ne voit pas, on dit Yarhamukallah. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter l'imam est obligatoire. Et on doit lui donner préséance par rapport au fait de faire tashmit ou l'atis ou de répondre à celui qui dit Assalamu alaikum. Également, celui qui est dans les toilettes, c'est la même chose, yani, on attend qu'il sorte des toilettes et lui-même donc pour dire Alhamdulillah. Et également, on ne dira pas Yarhamukallah celui qui est en prière. Celui qui prie, qui éternue, yani, il peut dire Alhamdulillah, voilà que les autres ne lui disent pas Yarhamukallah, comme cela a été relaté dans le hadith connu de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiallahu anhu. Les formules qui sont utilisées, que la personne qui éternue peut dire, il dit Alhamdulillah, c'est ce qui est le plus répandu, le plus connu. Également, il y a des hadiths authentiques dans laquelle la formule suivante a été relatée, Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toute situation, dans tous les cas. Alhamdulillahi ala kulli hal. Cela également a été relaté dans des hadiths authentiques. Et également, Alhamdulillahi rabbil alamin. Certains ulama ont authentifié le hadith par rapport à Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, ces 3 formules-là. Parmi les comportements qu'il convient d'observer pour celui qui éternue. Premièrement, c'est d'étouffer le plus possible l'éternuement et d'élever sa voix pour Alhamdulillah. Donc il essaye d'étouffer l'éternuement. Deuxièmement, de couvrir son visage, ou du moins son nez et sa bouche, pour qu'on n'apparaisse pas, ne sorte pas par exemple des choses de sa bouche ou de son nez qui pourraient importuner les gens à ses côtés. Et également de ne pas tourner son cou à gauche ou à droite, sa nuque à gauche ou à droite pour éternuer. Et dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il est dit que كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم éternuait, il mettait sa main sur sa bouche et il baissait, il étouffait donc l'éternuement. Comment la personne donc fait at-tashmit en utilisant quelle formule? Bien sûr, le plus connu c'est Yarhamukallah, et certaines autres formules ont été rapportées de la part de certains des compagnons radiallahu anhum, wallahu a'lam. Également, pour le fait de répondre à celui qui dit Yarhamukallah, il y a la formule la plus répandue et la plus connue qui est Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Et Ibn Omar radiallahu anhum lui disait Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Cela a été authentifié également que Ibn Omar utilisait cette formule-là donc pour répondre à celui qui à Shamit, à celui qui avait fait donc qui avait dit Yarhamukallah. Les derniers bienséances donc à observer dans la rue, il y a ce qu'on appelle ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aïnul Hamoula, donc le fait d'aider la personne à porter des choses. Ça se présente souvent ce genre de cas-là. Lorsque quelqu'un a besoin d'une aide, par exemple, il doit sortir quelque chose de la voiture, faire rentrer ou autre, porter quelque chose, il convient au musulman qui se trouve dans la rue, donc qui observe cette situation, de venir à son aide pour l'aider. Et le prophète sallam dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim dit ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها. Le fait d'aider la personne à monter sur sa monture. Bien sûr, ça c'était surtout auparavant lorsque la personne montait sur un chameau, sur un cheval. Donc de l'aider à monter sur le chameau. ويرفع له عليها متاعه صدقة. Cela constitue une sadaqa également dans la deuxième partie du hadith. De l'aider à monter, par exemple, ses valises. C'est bien de lui donner, donc lorsqu'il est sur la monture, cela constitue une sadaqa. Dans un autre hadith, le prophète Hassan dit Hamluka ala da'ifi sadaqa. Le fait de porter pour quelqu'un de faible, le fait que tu portes pour quelqu'un de faible constitue une sadaqa. Et cela, bien sûr, rentre également dans ce qu'on appelle tenfis al-kurubat, donc le fait d'alléger les souffrances et les peines des musulmans, wa qada al-hajat, le fait de remplir ses besoins, de s'occuper de ses besoins, wa li'anatu al-khair, le fait de l'aider dans le bien. Et cela rentre dans les hadiths généraux où le prophète sallam dit man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Donc le prophète sallam dit celui qui allège à un croyant un malheur ou une douleur ou une épreuve parmi les épreuves de ce bas monde, Allah azza wa jalla lui allège une épreuve parmi les épreuves du jour du jugement dernier. Et dans le même hadith à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Il dit Allah azza wa jalla aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Allah azza wa jalla porte assistance au serviteur tant que le serviteur porte assistance à son frère. Le hadith est rapporté par Muslim. Dans un autre hadith muttafaqun alayhi, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Celui qui s'empresse à aider son frère par rapport à ses besoins et autres, Allah Azza wa Jalla également s'occupe de ses besoins. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامِ. Et celui qui allège une souffrance, une douleur ou une difficulté du musulman, Allah Azza wa Jalla lui allège une difficulté parmi les difficultés du jour de la résurrection. Et bien sûr ici il faut faire attention à ce qui est porté. Par exemple, bien sûr, on ne peut pas porter quelque chose d'interdit ou que la personne va utiliser pour commettre quelque chose d'interdit. Il ne faut pas non plus, on voit parfois ça des gens qui vont à l'extrême. Ils aident dans tout et n'importe quoi. Il va prendre même un bac de bière ou des choses interdites, des cigarettes, un paquet, je peux t'aider, hop, et il lui porte. Là, ça dans ce qui est interdit, on le laisse sur place. Et on ne l'aide pas par rapport à ce qui est interdit. La bienséance suivante, c'est le fait d'aider, de venir au secours, de porter assistance à celui qui est oppressé, qui subit une oppression, une injustice. Iyanatul Mazlumi. Et le prophète Saint dit dans le hadith, Wa'inul Mazlum, prêtez main forte, portez assistance à celui qui subit une injustice. Et ce qui est voulu ici par Iyanatul Mazlum, le fait de porter assistance à celui qui subit une injustice, c'est l'aider à faire revenir son avarad al-mazlama, donc à l'aider à récupérer par une chose qui lui a été prise injustement ou autre, de récupérer ses biens qui lui ont été pris de manière injuste ou autre, ou de l'aider à repousser une oppression injuste. Si quelqu'un lui porte oppression, lui fait subir une injustice, c'est de repousser cette chose ou cette personne, de, en tout cas l'aider pour qu'il ne subisse pas cette injustice. Et le prophète sallam dit « Unsur akhaka zaliman aw mazluman » Aide, porte assistance à ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subisse une injustice. Il dit si il est injuste, il dit fardudhu an dhulmi. S'il est injuste, empêche-le de faire le mal. Si tu vois par exemple quelqu'un que tu connais ou un musulman, tu vois qu'il va préparer quelque chose de mal. Empêche-le. C'est quoi ici le fait de l'aider à de ne pas être injuste? C'est justement lui dire, Akhi, taqillah, fais attention à ce que tu vas faire, c'est interdit, tu fais craindre Allah Azza wa Jal, de l'empêcher de faire du zulm. Il dit, Wanyakun mazluma, fansur. Et si c'est lui qui subit l'injustice, à ce moment-là, viens à lui en aide. Et dans un autre hadith, le prophète dit aussi, Al-Muslimu akhul muslim, la yazlimu. Il dit, le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas subir d'injustice, ou la yardulu. Et il dit également, il ne le laisse pas en plan. Lorsqu'il doit lui porter secours, lui venir en assistance, il ne laisse pas tirer son plan. Hein? Aujourd'hui, on voit certains, le frère, il subit une injustice ou un truc, et chacun de son côté. Chacun pour soi, comme on dit. Hein? Il le laisse là en plan, et il voit qu'il est en train. Là, il est obligatoire au musulman de porter assistance à son frère. Et malheureusement, on voit certains qui assistent en spectateur, et même se réjouissent. Lorsqu'ils voient quelqu'un se faire agresser ou insulter ou humilier, ils sont même en train d'un spectacle pour eux de contempler cela. Ou même, ils appliquent le hadith, un sura khagra iman ou mazluma, à l'époque comme à l'époque de la Jahiliya. Les tribus à l'époque de la Jahiliya, ils appliquaient cela, un sura khagra iman ou mazluma. Comment? Dans le sens que, du moment qu'il est de notre tribu, s'il a fait lui, c'est lui qui a commencé, il a fait subir une injustice, on l'aide. Et si c'est lui qui a subi l'injustice, on l'aide également. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de nos frères délinquants, les frères dans la rue, c'est la même chose, c'est cette mentalité-là qu'ils ont. Ils voient quelqu'un qui va faire une marche arrêt, il a arraché la portière de quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut prendre sa plaque, il se met devant la plaque, pour cacher, pas qu'il l'a pris. L'autre a agressé un autre, ou là, ils aident le coupable, ou bien ils montrent par exemple à la police une mauvaise direction, pour qu'il prenne une mauvaise direction, ou autre, ou bien c'est des gens qui le recherchent, et tout ça là. Au pire des cas, abstiens-toi, pars, rentre chez toi. Mais surtout ne mens pas encore et aider le coupable à faire son mal ou à faire ses délits. Ça c'est vraiment le comble. Non? Donc ça c'est par rapport à Zulm, le fait de porter assistance à son frère qui subit une injustice. Et si les gens abandonnent cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna an-nasa. إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه أوشك أن يعمم الله بعقاب منه. Écoutez bien ce hadith. Le prophète sallam dit, si les gens voient l'oppresseur, voient la personne qui commet une injustice, فلن يأخذوا على يديه, et ça ils ne l'empêche pas de faire cette injustice, أوشك أن يعممهم الله بعقاب منه. يعني الله عز وجل va les toucher, va tous les toucher d'un châtiment. Qu'Allah va tous les toucher d'un châtiment. Donc, il faut faire attention à cela, et bien sûr, cela fait partie de l'amr bin ma'ruf, nahy al munkar, et il y a des critères, bien sûr, à respecter. Comme on a dit, j'invite ceux qui veulent les revoir à réécouter le sujet qui traite de l'amr bin ma'ruf, nahy al munkar. Parmi les bienséances également, Irshad ibn Sabil, le fait de guider, de montrer le chemin, la route à le voyageur, au visiteur, celui qui ne connaît pas l'endroit. Le prophète Hassan dit également, Irshad ukar rajuli fi ardi balalati sadaqa. Le fait d'aider le voyageur dans une terre qu'il ne connaît pas, donc dans un endroit qu'il ne connaît pas, constitue une sadaqa, donc une aumône. Et, yarhamukallah. Également, le prophète Hassan dit, tadul mustadilla ala hajati. Le fait de montrer celui qui ne connaît pas, de lui indiquer l'endroit où il doit se rendre. Tout cela donc fait partie de Irshad ibn Sabil, le fait de montrer à la personne l'endroit qu'il recherche, bien sûr, tant que ce n'est pas dans l'interdit, avec le même critère. S'il demande par exemple une boîte de nuit ou un café ou autre, on lui dit cherche quelqu'un d'autre pour te montrer le chemin. La bienséance également, irasatul malhouf, ça recoupe un petit peu le fait de d'aider le mazloum, le fait d'aider celui qui subit une injustice. Al malhouf donc, ou al lahif, c'est celui qui est perdu, désespéré. Il est comme par exemple celui qui a subi une injustice, mais de manière, il vient de perdre par un enfant qui vient de perdre ses parents, ou des parents qui viennent de perdre leur enfant dans la foule ou dans la rue, etc. Il est désespéré, le malhouf. Celui-là également, le prophète Sallam dit à ce propos, tas'a bi shiddati saqayki ma lahafani al mustaghith. Donc il dit, tu marches, tu vas aider celui al lahafan, donc celui qui est désespéré, qui vient chez toi, qui a perdu espoir et autres, donc de le calmer, de l'aider, etc. Également, hidayatul a'm, le fait de guider, de montrer le chemin à l'aveugle. Le prophète sallam dans le hadith dit wa ahdu wal a'ma, et ça fait partie également des domaines de sadaqa. Le prophète sallam dit tahdi al a'ma wa tusmi al asam al abkam yani hatta yafqa. Il dit le fait de guider l'aveugle et de faire comprendre aux sourds et aux muets jusqu'à ce qu'ils comprennent. Tout cela fait partie donc min abwab as-sadaqa. Et pour terminer, pour ne pas tirer trop en longueur parce qu'il est déjà 20h, le fait de ce qu'on appelle dhikrullahi kathira, le prophète sallam a dit dhikrullahi kathira, le fait de se remémorer le rappel d'Allah azza wa jal en toutes les situations. Vous savez que le prophète sallam se rappelait d'Allah azza wa jal dans toutes les situations, et à l'homme qui est venu demander une recommandation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah, que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah. Donc plutôt que de marcher dans la rue, de regarder les murs en haut, le ciel, les oiseaux à gauche et à droite, il vaut mieux que le musulman, donc, s'il est obligé de sortir et de se rendre quelque part, qu'il se remémore d'Allah Azza wa Jal, ou s'il est dans sa voiture, qu'il écoute le Coran ou un cours bénéfique, ou autre, plutôt que donc de laisser le temps se perdre sans en tirer aucun bénéfice et donc profit. Et bien sûr, dhikrullahi kathira, c'est un sujet qui a déjà été, dhikr, qui a été abordé déjà à plusieurs reprises. Donc on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. هذا والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.